Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. À quoi ça sert? Voilà une question très souvent agaçante. À quoi servent les maths ou la grammaire? Pire, à quoi sert tel insecte ou tel oiseau menacé de disparition? Oui, cette question est vilaine. Nul besoin de servir, d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un pour mériter d'exister. Utile aux yeux de qui, d'abord? Alors je vous propose ce matin qu'on privilégie le comment au pourquoi. Nous parlons de musique et d'enfants. Le sujet n'est pas de savoir à quoi ça sert de pratiquer un instrument, de chanter dans une chorale, de découvrir tel ou tel compositeur. Demandons-nous plutôt comment. Comment transmettre le goût de la musique aux enfants? Comment leur donner envie? Comment diffuser ce plaisir au plus grand nombre? Et si ensuite, grâce à la musique, se développe la patience des enfants, leur capacité de concentration, leur curiosité, leur sens de l'écoute, alors c'est du bonus. Il paraît que la musique, c'est excellent pour le cerveau. C'est parti, les enfants, musique.
Dorothée Barba, sur France Inter.
Trois invités en direct, trois mélomanes soucieux de transmettre leur passion aux enfants. Bonjour Saskia Deville.
Bonjour,
bienvenue. Vous êtes journaliste à France Musique, tous les jours entre midi et 13h sur l'antenne de France Musique pour l'agenda de l'été. Également sur Arte, vous présenterez d'ailleurs vendredi soir les Noces de Figaro au Festival d'Aix-en-Provence. Et vous avez commis un réjouissant podcast pour enfants qui s'appelle Les Instrus, avec un Z, disponible sur les plateformes de podcast et sur le site de France Musique. Des épisodes de 10 minutes pour comprendre comment ça marche? Comment ça marche un piano, une clarinette ou une trompette? Vous êtes musicologue de formation, chanteuse lyrique également. Est-ce que vous aussi, vous avez appris des choses en réalisant ce podcast?
Eh bien, oui, en fait, effectivement. Alors, je suis pas tout à fait chanteuse lyrique. J'ai fait du chant lyrique, mais je n'en ai jamais fait une carrière, ni un quelconque parcours professionnel. J'ai beaucoup chanté petite. C'est pour ça qu'évidemment, le sujet de cette émission m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé ma voix, qui est un instrument. Je n'ai pas travaillé le piano, je n'ai pas travaillé le violoncelle, je n'ai pas fait de percussion. Il y a plein d'instruments que je ne connais pas et c'est vrai qu'en écrivant ces podcasts, j'ai été suivre un cours de clarinette, j'ai été suivre un cours de percussion, j'ai suivi des cours d'instruments pour pouvoir les écrire et là, effectivement, j'ai appris tout un tas de choses que je ne connaissais pas.
C'est une vraie enquête, on va y revenir et c'est très drôle surtout. Marc Caillard est en face de vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien, vous avez fondé il y a 40 ans l'association Enfance et Musique qui se démène pour promouvoir l'éveil musical des jeunes enfants, notamment en formant des professionnels de la petite enfance. Et vous allez nous chanter des comptines. Non, pas du tout. Vous pensez vous aussi qu'il faut éviter de se demander à quoi ça sert, la musique, Marc Caillard?
Il faut éviter de se demander, mais en même temps, la réponse est simple. La musique, c'est indispensable pour vivre. On est des humains, justement, et la gratuité de nos relations et de nos langages, c'est justement là où on est essentiellement humain.
Le faire pour rien tout de même, sans se demander à quoi ça sert?
Ben là, vous interrogez, c'est une question politique, c'est quel est le projet de la société? Rentable, efficace, productive, ou épanouissante, et avec l'humain au centre. Donc je dirais la musique au centre, l'humain au centre.
Notre troisième invité est en direct par téléphone. Bonjour Mathilde Manteau.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes violoncelliste et prof de musique à l'école du domaine des possibles à Arles. Et vous êtes coordinatrice d'un orchestre dans le cadre de l'association Orchestre à l'école. C'est une association qui met des instruments entre les mains des élèves. Alors c'est une question que posent souvent les enfants, j'imagine, Mathilde Manteau. À quoi ça sert de jouer du violoncelle?
Ils la posent, mais pas tant que ça en fait. Hein. Quand on les embarque dans un projet d'orchestre à l'école, ils se posent pas tant de questions. Ils font, ils expérimentent et c'est aussi comme ça qu'ils vont apprendre et qu'ils vont découvrir tout cet univers de la musique par le faire en fait.
Et vous constatez-vous que ça leur ouvre des possibles immenses et notamment dans tous les champs de l'apprentissage?
C'est énorme. On développe énormément de compétences, de multiples compétences grâce à cet outil qui est la musique. Et évidemment, c'est de la concentration, c'est de l'attention, de l'écoute des autres, de soi-même aussi. Donc, c'est apprendre à trouver cet équilibre entre soi et les autres. En fait, c'est de la coopération, c'est des compétences psychosociales aussi. Hein. Et puis, c'est vivre ses émotions pour certains enfants, c'est apprendre à les vivre au travers de la musique, et des fois à les exprimer. On les a tellement vécues de manière très forte au travers d'un morceau qu'on peut justement les exprimer après. Donc tout ça, finalement, c'est des compétences dont on a besoin dans le monde pour construire le monde.
Cette émission est la vôtre, chers auditeurs et auditrices. J'attends vos messages, vos témoignages musicaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire part d'une anecdote sur l'émission d'hier qui était consacrée à la beauté des coïncidences. Un auditeur nous a appelé hier en direct pour raconter qu'un jour, il y a bien longtemps, il s'était réveillé avec une chanson de Montand en tête, Les Roses de Picardie. Et le même jour, dans la rue à Paris, il a croisé Yves Montand. La coïncidence était très jolie. Eh bien, on a ensuite reçu un courriel d'un autre auditeur qui écoutait l'émission dans sa voiture. Il ne connaissait pas cette chanson d'Yves Montand. Il n'en avait jamais entendu parler d'ailleurs. Et il est passé au même moment à côté d'une maison qui s'appelait Les Roses de Picardie. Voilà, c'est follement beau. Je voulais vous raconter ça. Les enfants et la musique, c'est notre sujet du jour. Écrivez-nous à la page de L'été comme jamais sur franceinter.fr. Appelez-nous au 01 45 24 7000 pour intervenir en direct. Et vous pouvez aussi nous laisser une note vocale via l'application France Inter sur votre téléphone. Un message audio, un peu comme ceux qu'on reçoit de plus en plus sur nos téléphones en lieu et place des SMS.
Coffee in my favorite cup. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll stick with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Call from 104. I hear her on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and whispers, Stevie, everything is all right. That's why I know. From wonderful, I hear on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and whispers, Stevie, everything is all right. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so.
C'était en 1961, Stevie Wonder avait 12 ans. La programmation musicale de l'été comme jamais est signée Jean-Baptiste Audibert. Les enfants et la musique, c'est notre sujet du jour. Et nous parlons notamment d'un délicieux podcast.
Non mais ça va, non mais dis-donc, ça va pas de me souffler dedans comme ça.
Oh pardon. Bah, je peux pas te jouer.
Bah si, mais enfin quand même, là c'est un peu violent là. Moi je t'avoue, je suis pas du matin, hein. Il faut me prendre tout doux. Tu dois utiliser ta langue. Tu sais, quand tu prononces les lettres A et I, par exemple, bah, ta langue, elle se place pas au même endroit dans la bouche.
Attends. A...
Voilà.
I... Ah oui, c'est vrai.
C'est en déplaçant ta langue dans ta bouche que tu vas produire des, bah, des notes différentes. Par exemple, pour jouer une note aiguë, bah, on va plutôt aller chercher un I. Et pour une note grave, un A. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. En fait, je suis aussi pistonner.
Voilà, pistonner, non pas parce qu'elle connaît des gens importants, mais parce qu'elle a trois pistons. Les Instrus, podcast signé Saskia Deville, journaliste à France Musique. On a reconnu bien sûr la voix de Florence Foresti. La bonne idée, Saskia Deville, c'est qu'elle ne joue pas une trompettiste, mais une trompette.
Et mais ça change tout. On avait un vrai trompettiste en studio. On a Romain Leleu qui a participé aussi, qui est un très grand trompettiste de musique classique, qui a participé au podcast. Et c'était ça aussi, toute l'envie. C'est voilà, comédien, c'est un métier. Musicien, c'est un métier. Et c'est de donner à chacun sa propre place dans ce podcast.
Des histoires pour enfants avec des instruments, il y en a plein. Pierre et le loup en tête, évidemment. Mais jamais aucune ne nous avait appris comment ça marche aussi bien. Comment vibre une clarinette. Comment fonctionnent les marteaux et les étouffoirs du piano. C'est important, à votre avis, d'expliquer aux enfants comment ça marche ?
Je pense qu'il y a plein de questions qui se posent quand on va écouter un concert, quand les enfants ont l'occasion de croiser des musiciens. C'est ça qu'en tout cas, ces musiciens ou ces fabricants ou ces restaurateurs que j'ai rencontrés pour préparer ce podcast m'ont raconté. Il y a plein de questions qui se font sur « Ah tiens, c'est marrant, c'est quoi comme matériau ? C'est comment ça ? Pourquoi on ne peut pas souffler tout simplement dans une trompette comme ça ?» Il y a vraiment toutes des questions assez pratico-pratiques qui se posent une fois qu'on est face à l'instrument. C'est ça que j'avais effectivement envie d'explorer.
Alors moi aussi j'ai appris plein de choses, notamment ce qu'est un canard pour une clarinette.
C'est une fausse note. Voilà. C'est quand on souffle de travers.
Est-ce que votre ambition c'est de susciter des vocations d'instrumentiste ?
Alors je pense que même s'il y a une seule personne qui écoute les podcasts et qui se met à avoir envie de jouer un instrument, que ce soit d'ailleurs un enfant ou un adulte, c'est déjà ça de gagner. Je trouve ça super. Il y a cette vocation là bien sûr, mais il y a aussi l'envie de faire rire avec un sujet, musique classique, sur lequel on rigole pas très souvent, en tout cas dans l'imaginaire du grand public, si je puis dire. Moi, c'est pas du tout ce que je vis en tant que journaliste de musique classique. Je rigole tous les jours, je suis entourée de collègues super, je rencontre des musiciens géniaux, très drôles, très accessibles. Mais c'est vrai que l'humour a évolué sur plein de thématiques aux yeux du grand public, mais quand on parle de musique classique, on est toujours un petit peu coincé dans les mêmes clichés.
Est-ce que c'est un problème français ? Je m'adresse à la Belge.
Oh vous non, pas du tout. C'est exactement la même chose en Belgique.
Un peu élitiste comme domaine, donc.
Un peu élitiste, et puis vraiment, je pense que c'est aussi une responsabilité de la part de tous ceux qui touchent à ce domaine-là. Je pense essentiellement aux humoristes ou aux comédiens avec qui j'ai travaillé notamment, ou avec qui j'ai eu envie de travailler. C'est vrai que à chaque fois que j'entends parler de musique classique, que ce soit sur France Inter ou ailleurs d'ailleurs, c'est toujours plein de clichés, sur des vieux clichés, une chanteuse d'opéra un peu proéminente, les gens qui s'endorment dans la salle, alors qu'il y a énormément, et je pense qu'on va en parler, d'initiatives qui sont menées en France ou en Belgique d'ailleurs, et qui n'ont pas du tout cette image-là ou cet univers-là, qui ne portent pas du tout cet univers-là.
Les Instrus avec un Z, podcast recommandé à partir de quel âge, Saskia Deville ?
Eh bien, à partir de 5-6 ans.
5-6 ans, voilà.
Mais oui, allons-y, et puis jusque...
Et pour les plus jeunes alors, qu'est-ce qu'on écoute quand on est encore plus petit ?
Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Alors cote, 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 cadette, cote, 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 cadette, cote, 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 cadette, rock'n'roll des gallinacées, yeah.
Et voilà, on l'a dans la tête pour la journée. Merci à vous, Marc Caillard, extrait d'un disque édité par votre association Enfance et Musique. C'est votre association qui a contribué à installer ce qu'on appelle l'éveil musical en France. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, tout le monde dans le monde de la petite enfance est convaincu de l'intérêt de la musique dès le plus jeune âge ?
Je crois qu'il faut tout de suite regarder, quand on dit le monde, je pense que l'éveil musical du tout petit, il n'est pas formulé comme ça dans beaucoup de régions du monde, tout simplement parce que il fait partie de la vie. On chante, on danse, on est en interaction avec ses enfants dès le plus jeune âge, parce que dans la transmission culturelle traditionnelle, de même qu'on parle à ses enfants, nous aura fallu Françoise Dolto pour dire « il faut parler aux enfants ». Mais on parle aux enfants et les enfants parlent. C'est-à-dire, est-ce que ça existe autour d'eux ? Est-ce que ça existe encore ? Et quand il y a des dysfonctionnements ou des sentiments... Moi, j'étais enseignant en musique, je me retrouvais avec des enfants qui chantaient faux ou qui n'avaient pas le sens du rythme. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, qui ne s'est pas mis en place. Alors, on cherche et on a l'impression de réinventer le monde. En vérité, on répare un peu d'une certaine manière, mais comme on n'est pas seulement dirigé vers le passé, on réinvente aujourd'hui en faisant les instrus, en se posant la question de l'improvisation, de la musique contemporaine, des musiques de l'ensemble du monde. On est dans le monde d'aujourd'hui, mais en même temps, on se préoccupe si on se préoccupe des jeunes enfants, on est attentif évidemment à leur situation dans leur développement.
Marc Caillard, aujourd'hui dans les crèches, dans les écoles maternelles, chez les assistantes maternelles, c'est quelque chose de très répandu, l'éveil musical. Est-ce que vous mesurez le chemin parcouru depuis la création de votre association Enfance et Musique il y a 40 ans aujourd'hui ?
Alors disons que oui, on mesure le chemin parcouru, je dirais paradoxal. Je suis un enfant de 68, donc toujours un peu à regarder comment fonctionne la société, un peu critique. Ça s'est réinstallé, cette question de la petite enfance, comme une évidence, on va dire. Moi, je me rappelle, il y a 40 ans, on cachait la musique, on appelait ça éveil sensoriel auditif.
Vous voyez, parce une forme que, de pudeur, presque.
Je dirais pas une pudeur, tout simplement, avec du recul, on a une explication simple. Les tout-petits étaient entre les mains du secteur médical d'abord, sanitaire et social, parce qu'il y avait les problèmes de santé, tout simplement, de mortalité infantile. Vous voyez, pour pas non plus brocarder, et d'une certaine manière, il fallait réintroduire cette dimension-là, relationnelle, de transmission de langage, éducative, et donc ça passe par la réactivation de tous ces patrimoines traditionnels. Alors on peut le faire de manière très traditionnelle ou on peut le réinterpréter.
Question toute bête, qu'est-ce que ça fait comme effet à un tout petit, le rock'n'roll des Gallinacés?
Ben je dirais que ça fait quoi? Ça fait tout simplement qu'un tout petit, j'allais dire, il n'existe pas, il est prématuré. Hein. Là, je vous fais un petit cours de bébologie.
La bébologie, c'est la science de la bébé.
Tout simplement, qu'est-ce que ça lui fait? C'est qu'il est complètement dépendant et qu'il est en interaction vivante et que son mouvement est de relation avec l'autre dans une dépendance totale, mais dans une créativité interactive de langage. Le langage, ça veut dire du sens. Quelque chose qui a du sens par rapport à mon expérience sensible. Donc je suis en relation, et n'oublions pas toujours ce que je veux...
C'est une façon de parler, quoi, c'est ce que vous dites.
Alors, j'allais le dire autrement, mais vous le dites spontanément, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que la musique, c'est la même matière que le langage. Ouais. Et l'interaction de langage va aller vers la chanson et va aller vers le langage. C'est la même matière, l'audiophonologie, qui est l'endroit où les humains ont créé le langage symbolique pratique, celui qu'ils utilisent tous les jours.
D'ailleurs, votre père était chef de chœur. Je suis sûre que vous avez appris à chanter avant d'apprendre à parler, Marc Caillard.
Ben, je pense qu'en tous les cas, les deux, le tronc commun était présent en permanence. Mais je pense qu'il est présent pour, tout le monde quand on voit, quand on voit cette sorte, j'allais dire addiction, excusez-moi, c'est pas le mot juste, mais cette sorte de jouissance et de dépendance toute sa vie que tout le monde a finalement avec la musique, même de manière passive.
Les auditeurs et les auditrices interviennent dans l'été comme jamais et Louline a appelé le standard au 01 45 24 7000. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez une question, je crois, ou un témoignage.
Moi j'ai fait l'enfance. Et du coup, j'ai fait 2 ans de violon.
Aïe, on vous entend très mal.
La seule chose dont je me souviens du solfège, quelque chose qui était assez lassant, énervant, et qui ne m'a pas du tout plu. Et je pense que...
La liaison est très très mauvaise, je m'excuse, on va s'arrêter là, Louline. On vous entend vraiment très mal, je crois que le propos c'était de dire qu'elle a fait du violon et donc du solfège, et que c'était un cauchemar. Alors je m'adresse à Mathilde Manteau qui participe à l'association Orchestre à l'école. Est-ce que c'est obligatoire le solfège pour accéder à la pratique d'un instrument?
Non. Et moi, j'ai entendu ça de très nombreuses fois. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon instrument parce que j'ai dû faire du solfège. J'ai dû commencer par le solfège, donc je n'ai pas commencé mon instrument. Effectivement, c'est une question qui est là, qui est présente dans beaucoup d'esprits. Et cette association Orchestre à l'école permet justement que l'apprentissage de l'instrument se fasse au sein de l'école. Donc, c'est dans une journée scolaire, comme une matière scolaire. Et j'ai un peu décrit les compétences tout à l'heure. Et je crois que justement, toutes ces compétences permettent après de ne pas passer autant de temps en classe sur les matières dites fondamentales comme les mathématiques ou le français. Comme ils ont appris aussi à se concentrer par un autre biais, on peut gagner du temps et du coup libérer cet espace pour travailler la musique et du coup là, pour se tourner véritablement vers l'apprentissage d'un instrument.
Mais il faut bien savoir lire une partition pour jouer d'un instrument et donc apprendre le solfège.
Ouais, je crois que les deux s'apprennent en même temps. On n'a pas besoin de savoir lire la partition avant de commencer son instrument. Et ça, c'est une expérience qui est très forte que l'on fait dans ces orchestres à l'école. Les enfants, là, nous, on a participé à un projet fabuleux avec le violoncelliste Gauthier Capuçon cette année. Et les enfants ont commencé à apprendre un instrument au mois d'octobre. Et fin juin, ils étaient sur scène à l'Opéra de Nice et à la Scala à Paris avec Gauthier. Il y a des enfants qui connaissent 3 pages par cœur, mais qui ne savent toujours pas lire la partition. Et c'est pas grave. Ils vont apprendre au fur et à mesure. Et je crois que l'intérêt du départ, c'est qu'ils puissent finalement tomber en grand amour devant avec leurs instruments et faire un petit bout de chemin en musique. Et après, le solfège, ça vient tout seul.
Ça vient tout seul.
Ils ont envie maintenant.
Ouais.
Ils ont envie.
Saskia Deville, même pas peur des questions qui fâchent. Pour ou contre le solfège?
Mais même pas peur. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mathilde Monteau à l'instant. Que le plaisir, être amateur, c'est quoi? C'est cultiver un art pour son unique plaisir, finalement. Mm-hmm. Et c'est très bien comme ça. Commencer la musique en expérimentant l'instrument, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour donner goût à l'enfant, qui n'a pas d'a priori, en principe, sur les gens, sur les styles musicaux. Il est ouvert à tout. Et effectivement, de passer par l'apprentissage de l'instrument avant le solfège est une excellente chose pour effectivement cultiver ce plaisir ou défricher ce plaisir, en tout cas, de l'instrument. Le solfège, je suis complètement d'accord avec Mathilde, vient par la suite et les choses s'accompagnent finalement sur la suite.
On peut garder une forme de plaisir malgré les difficultés de l'apprentissage, Mathilde Monteau?
Oui, tout à fait. Tout à fait, je crois que il y a forcément dans l'apprentissage d'un instrument, il y a forcément des phases où on est découragé, où on a besoin d'encouragement. Mais là, pareil, dans ces orchestres à l'école qui sont mis en place vraiment au sein du domaine scolaire, les enfants s'encouragent les uns les autres. On n'a pas toujours besoin, nous, d'être là et de leur dire « allez, vas-y », c'est aussi entre eux qui se donnent des tuyaux. Et voilà, moi j'ai vécu des moments très beaux où certains enfants, une enfant notamment, s'est découragée à un moment dans l'année. Une copine lui dit « mais regarde mes doigts et tu vas raccrocher ».
Regarde mes doigts.
C'est comme ça. Ouais, regarde mes doigts. Donc ça devient de l'imitation, un peu ce que Marc Gaillard disait tout à l'heure. C'est vraiment important aussi. C'est un langage finalement qui est transmis entre deux enfants là dans ce cas-là.
Saskia Deville.
Et de mon expérience, le fait d'avoir des en quelque sorte des objectifs. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça petite, d'avoir un spectacle de fin d'année ou des concerts ou des événements de partage comme ça, je trouve aide à garder et à faire vivre cette motivation.
Alors justement, les spectacles de fin d'année ont été rendus compliqués par la crise sanitaire. Ça vous a mis des bâtons dans les roues, Mathilde Monteau?
Alors, ça a failli nous en mettre. Ça nous a donné beaucoup de fil à retordre parce qu'on a cru à des moments qu'il n'y aurait pas. Voilà. Mais on a eu la chance, l'immense chance que les concerts soient programmés au mois de juin. Et de ce fait, on est passé un peu à travers les mailles du filet et on a pu mener le projet jusqu'au bout. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est évident. C'est les projets de fin d'année tiennent les élèves, les encouragent énormément et leur montrent qu'ils peuvent aller au bout de quelque chose. C'est terriblement important dans les enjeux actuels que l'on connaît dans la société.
C'est vrai à tous les âges, ça, j'imagine, Marc Caillard. L'enjeu d'une représentation de fin d'année et tout ce que ça comporte d'aide à la motivation.
Oui, alors je vais revenir à la question d'avant et en même temps je la relis à votre question de maintenant. Le concert de fin d'année, c'est un acte collectif. Mm-hmm. Donc c'est un acte qui donne du sens. Je représente, je montre, mais on m'écoute, on me regarde et puis je souris, j'ai mes parents, j'ai ci, j'ai ça. Ça donne du sens à ce que je fais. Donc quand on parle de la question du solfège avant, après, ça pose la question, moi je le repose en termes de manque, ce fameux manque dont je parlais tout à l'heure, ou de dysfonctionnement, ou d'histoire tout simplement, de perturbation. C'est comme si on faisait de la grammaire avant de parler. Je veux dire, on apprend d'abord à parler, et une fois qu'on parle et que ça a du sens, regardez le boulot pour le bébé d'apprendre à parler et à marcher avant 2 ans.
Il fait ces deux choses-là. C'est vrai que la grammaire en maternelle, ce serait compliqué.
ça serait compliqué, mais en lisant de la poésie, en sensibilisant à la littérature, à des beaux textes, à des chansons, etc., d'une certaine manière, on fait ressentir la complexité et à un moment donné, on se pose la question du pourquoi, justement, du ce que vous posiez tout à l'heure, c'est comment ça marche avec les instrus. Pourquoi pas? Au fond, les chansons, la musique, les relations humaines, on est sans arrêt en train de raconter la vie d'une manière ou d'une autre. Poétique, précise, les chansons de métier, les comptines, les chansons, mon premier va à la chasse, mon deuxième fait ci, mon troisième fait la cuisine, mon quatrième mange, et le tout petit qui n'a rien lèche le plat, etc. On lui raconte la vie, mais on la met en scène à travers des formes qui sont plus ou moins poétiques, gratuites, imaginaires, sensibles. Et c'est toute cette enveloppe qui fait qu'à un moment donné, évidemment, on explique comment ça marche. On aide à mettre le doigt sur l'instrument si c'est ça, ou à agiter même le hochet des bébés. On lui prend la main, mais c'est juste pour démarrer, mais après, on le laisse. Si on veut absolument, évidemment, à chaque fois qu'il prend le hochet, on lui prend la main pour lui montrer que...
Qu'il faut être en rythme.
Eh ben, il n'aura pas envie de prendre le hochet. Parce qu'à chaque fois, il dira, attends, quand je prends ce truc-là, les adultes me tombent dessus.
Ça, ce qu'il y a de vil.
Et j'aimerais quand même ajouter une petite précision par rapport à cette fameuse grammaire. On a une vision très péjorative du solfège, mais comme on peut avoir une vision péjorative de n'importe quel domaine dans l'éducation, si on a un super professeur, ça peut être génial, hein, le solfège.
Vous avez eu un super prof de solfège?
Ben, j'en ai eu, ouais. C'est vrai. J'en ai eu aussi qui n'étaient pas dingues, on va pas se mentir, mais je pense qu'on est accompagné par la bonne personne, et c'est la même chose quand on découvre un instrument, dans la pratique, je veux dire, si on est accompagné par un éducateur, par un pédagogue génial, le solfège, ça passe tout seul. Hein.
Allez, j'attends vos témoignages et vos réactions sur le site de France Inter ou sur l'application France Inter, les enfants et la musique.
Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté. Je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Séquoia, c'était Pomme sur France Inter.
France Inter, l'été oui, comme jamais.
Thank you.
Et ce sont vos élèves qu'on entend, Mathilde Monteau, l'orchestre et le chœur de l'école du domaine des possibles à Arles. Kien ta Kien, composé par Étienne Perruchon. Pour ceux et celles qui se demanderaient de quelle langue il s'agit, c'est du dogorien, Kien ta Kien. Vous nous parlez de cette langue, Mathilde Monteau?
Ouais, c'est une langue imaginaire qu'a donc imaginé Étienne Perruchon. Une langue qui fait beaucoup voyager finalement parce que les élèves ont pu mettre tout ce qu'ils voulaient dessus finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne dit pas une chose précisément, chacun peut imaginer ce qu'il souhaite mettre comme sens derrière. Donc c'est une langue qui nous a porté toute l'année au travers de ce beau projet aux côtés de Gauthier Capuçon.
Parmi les élèves qui jouent, est-ce que vous diriez que certains n'auraient jamais eu accès à un instrument de musique sans cette association orchestre à l'école?
Oui. C'est évident. Il y a des élèves qui, que ce soit dans des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à la musique, enfin avec le passage d'un instrument, l'acquisition d'un instrument, ou que ce soit dans des familles qui sont au contraire pas forcément dans ce besoin-là, mais qui n'ont pas l'idée tout simplement de proposer ça à leurs enfants, ça profite à tout le monde. Et là, ce que met en place l'association, ce qui est de génial finalement, c'est que les instruments appartiennent aux différents lieux, aux différentes écoles, mais ils sont mis à la disposition des enfants. Donc il n'y a pas cette contrainte, je dirais, pécuniaire, et du coup ça permet à tout le monde de pouvoir accéder.
La barrière, selon vous, est autant psychologique que financière, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'idée de faire pratiquer un instrument à son enfant?
Bien sûr, on n'a pas forcément cette idée-là, et pourtant on voit bien, je vois même aussi des élèves en difficulté avec des troubles 10, par exemple, de la dysgraphie, de la dyscalculie ou de la dyspraxie, ce genre de troubles-là, les parents se disent on va pas leur rajouter une difficulté supplémentaire. Or, la musique finalement va les aider. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir aussi une association comme ça derrière et des enseignants qui sont engagés derrière ce genre de projet pour les aider justement, pour leur montrer que c'est possible et que plutôt qu'être une surcharge de travail, ça va être au contraire une aide pour le reste des apprentissages scolaires.
Vous avez un exemple concret en tête, un exemple récent de bénéfice sur les autres apprentissages ou sur l'éveil de l'enfant ou sur sa relation aux autres peut-être?
Oui, un exemple, enfin j'en aurais plein en fait, avec des enfants qui présentent justement ces troubles aussi et qui tout à coup arrivent par exemple dans une œuvre comme celle-ci, Étienne ta Kien, qui arrivent à se concentrer, à donner toute leur attention, mais une attention extrême et énorme pendant 10 minutes. Et pour des enfants qui ont des troubles de l'attention, par exemple, c'est considérable. Et ça veut dire que ça, c'est acquis. Après, progressivement, ils vont pouvoir se concentrer dans les autres matières également. Et là, ils sont réunis autour d'un projet. Ils savent qu'il faut suivre un chef d'orchestre. Ils savent qu'il faut écouter les autres, donc ils se mobilisent pleinement et jusqu'au bout. Et puis, des musiques comme celle-ci, voilà, ça les a fait complètement vibrer. Moi, j'ai vu des élèves qui étaient un peu sceptiques en début d'année et puis qui arrivent au mois de juin, ils sortent de la scène en pleurs parce qu'ils ont vécu quelque chose, tous ensemble et individuellement.
Voilà, la musique est une forme de langage, disait-on tout à l'heure. Ouais. C'est d'autant plus vrai avec une langue imaginaire comme le dogorien d'Étienne Perruchon. On va prendre un auditeur en direct. Olivier nous a téléphoné au standard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous pratiquez un instrument, Olivier?
Je joue plusieurs instruments et en plus, la flûte. Attendez, il y a un retour. Voilà, ça irait mieux comme ça, je crois.
Il faut couper
vous
la radio.
Bien?
Oui, je vous entends très bien. Allez-y.
Voilà, oui, je pratique plusieurs instruments et entre autres la flûte à bec, oui.
La flûte à bec. Alors, je recommande au passage l'émission de Thomas VDB le samedi matin sur France Inter. Qui veut gagner la flûte à bec? Le premier épisode était une pépite. Pourquoi la flûte à bec, Olivier?
Eh bien, déjà, parfois, quand j'entends certaines émissions à la radio, je me dis pourquoi est-ce qu'il y a un tel mépris pour la flûte à bec, qui est un instrument que je trouve absolument génial.
Alors, ça, c'est les cours. Ouais. Ça, c'est les cours à l'école, franchement, Olivier. Non?
Alors, c'est peut-être les cours à l'école, c'est peut-être que c'est une obligation aussi, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être aussi qu'il y a une façon d'enseigner qui justement est liée au solfège, dont vous avez beaucoup parlé dans l'émission, c'est présent, et bravo d'ailleurs, c'est intéressant. La musique, c'est un langage. Pourquoi doit-on apprendre à l'écrire et à le lire avant de commencer à le jouer? C'est un mystère pour moi. Donc voilà, peut-être que ça tient tout cela. Peut-être qu'il serait intéressant, quand on donne des cours de tout avec à l'école, de permettre à des enfants, à des adultes, de découvrir tout ce qu'il y a moyen de faire avec une petite deck avant de commencer à jouer des petits airs qui souvent sont pas très passionnants.
Voilà, l'hymne à la joie, peut-être pas tout de suite. D'abord écouter des virtuoses de la flûte à bec pour se rendre compte de ce que ça peut donner. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé.
Pourquoi des virtuoses? On peut aussi écouter des très très chouettes musiques simples, mais qui donnent envie de les jouer. Pas forcément que ce soit pas des virtuoses.
D'accord, vous avez raison.
Voilà. Et en tout cas, ça me donne
merci mille fois. Bonne
une
journée
idée pour un prochain épisode des Instrus, la flûte à bec.
Bah oui, ça c'est
excellent
sûr. Mais vous êtes d'accord qu'il y a un problème avec la flûte à bec à l'école?
Alors ça, je pense que de nouveau, je vais parler en tant que Belge, c'est quelque chose de très français parce que en Belgique, il n'y a pas eu cette tradition.
Ce lobby de la flûte à bec.
J'ai fait de la flûte à bec petite. Alors j'ai pas continué parce que j'ai un peu touché à tout, etc. Mais je crois que c'est quelque chose effectivement de très français qui est, vous voyez, un lourd passé, on va dire, face à cet instrument, et à tort.
Marc Caillard.
Mais je dirais que la question, c'est quand on dit il y en a des enfants qui n'auraient pas accès à la musique. Ça pose la question donc de la présence des pratiques artistiques vivantes dans la vie quotidienne des enfants, dans les familles, dans les quartiers, dans la vie sociale. Toujours pareil, regardons autour de nous, quand on voit, ou moi, vous parliez de moi, c'est ma petite histoire.
Quand votre association Enfance et Musique.
Oui, mais quand fils de chef de chœur, veut dire qu'on chantait. Les adultes ensemble avaient des... Mais ils chantaient la Renaissance, ils chantaient Mozart, ils chantaient les chansons traditionnelles, ils chantaient mille et une choses, et ils chantaient à la fin des repas, etc. Ça faisait partie de leur vie. C'était ni professionnel ni amateur, c'était vivre avec des expressions artistiques. Qu'ils soient religieuses, chamaniques, chansons de métier, pratiques collectives, ça fait qu'après, ça donne envie autant de faire de la flûte à bec que de chanter, que de faire n'importe quoi. Alors si on met tout d'un coup tout le monde à la flûte à bec, alors que la flûte à bec n'existe pas dans l'environnement de l'enfant, qu'aucun adulte autour d'eux ne jouit avec d'autres adultes de sa vie en faisant de la musique avec la flûte à bec. Moi, j'ai fait de la flûte à bec quasiment professionnelle.
Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, finalement, cette flûte à bec, si elle n'est pas entourée d'un...
C'est pas un cheveu sur la soupe, pour retrouver les bons mots, c'est que ça ne fait pas partie de la culture commune.
Oui, et peut-être proposer un seul instrument, alors que chacun va accrocher à l'un ou à l'autre.
Là, on se heurte à des problèmes évidents de logistique.
Oui, mais pour ça, orchestre à l'école fait un
super boulot. C'est exactement comme si, tout d'un coup, un enfant... Il avait quelqu'un qui voulait lui apprendre le chinois, comme ça, sans rien lui demander, ni à sa famille, ni à lui, une heure par semaine. Puis quand il rentre chez lui, ça n'a aucun sens, il n'a aucune utilité. Ça ne lui permet absolument pas de tisser des liens, de s'épanouir, de s'exprimer, puisque ça n'est pas relié à un projet collectif.
Les auditeurs et auditrices peuvent aussi nous envoyer des notes vocales via l'application France Inter. Alexia nous écoute à Toulouse.
J'ai 32 ans, j'ai fait du piano pendant quelques années, de mes 7 ans à mes 18 ans, en école de musique dans un premier temps. Et là où je souhaite intervenir, c'est qu'on était encore notés. On avait des examens et j'en avais des sueurs froides, petites. Pourquoi encore noter, avoir un examen alors que c'est censé être du plaisir? J'adorais faire du piano, mais ces moments-là étaient juste affreux pour moi. Et pareil à l'école, pourquoi la musique doit encore être notée? Pourquoi on a des notes? Ça en devient une matière comme les autres, alors que ce n'est pas une matière comme les autres. En tout cas, maintenant, cela fait 2 ans que j'ai racheté un piano, et je m'y remets pour le reste de ma vie.
Ah, c'est une histoire qui se termine bien. Merci à vous, Alexia. Je m'adresse à Mathilde Monteau, l'association Orchestre à l'école. À quoi ça sert de noter la musique?
Alors, moi, je la note pas. Donc,
je m'en doutais un peu.
Pour moi, c'est impossible parce que on l'a évoqué, c'est un langage et on peut pas noter ce langage-là. Il est propre à chacun et comme le choix d'un instrument. Effectivement, je suis d'accord, on peut pas imposer la flûte à bec à tout le monde, c'est pas possible ça. Mais au même titre qu'on peut pas imposer le violon à tout le monde, qu'on peut pas imposer la clarinette. Je crois que les instruments, ils correspondent aussi à des choix que font les enfants et il faut aussi leur laisser le loisir de changer aussi en fonction de l'évolution qu'ils connaissent et des envies qu'ils ont. Et la musique, non, pour moi, c'est impossible à noter. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Si c'est à partir du moment où on vit avec la musique, on ne peut pas la noter et on doit vivre avec la musique. Elle fait partie intégrante de nos vies. Donc on ne peut pas noter ce genre de choses. C'est pas quantitatif, c'est pas qualitatif non plus. C'est quelque chose qui se vit.
Un témoignage.
C'est trop subjectif.
Bien sûr. Témoignage de Claire qui nous parvient sur le site internet de France Inter. J'avais une prof de solfège et de piano tyrannique. Elle nous faisait traduire des pages entières de clés de sol en clés de fa pour ensuite les rayer d'un grand trait. Ça nous crispait tous. Quant à l'apprentissage du piano, c'était une cata. Aucune approche ludique, très stricte. Elle me donnait des coups dans le dos si je ne me tenais pas droite au piano. Le son de son stylo Velleda qui frappe la mesure contre le piano me hante encore, dit Claire. Cela dit, j'ai appris à compter, additionner, déchiffrer ce langage très jeune et ça m'a tout de même ouvert au monde. J'ai tout de même arrêté le piano à cause de cette prof et je viens seulement de m'y remettre 25 ans plus tard. Des histoires traumatisantes, il y en a des tonnes, ça, ce qu'il y a de ville.
Mais il y en a des tonnes, très certainement, et comme il y a aussi beaucoup de belles histoires. Mais c'est vrai que je trouve ça effectivement hyper dommage que quelqu'un puisse être freiné dans son plaisir de pratiquer la musique par un mauvais professeur. Mais ça, je pense que ça peut se transposer à plein d'autres matières.
À tous les apprentissages, évidemment.
Absolument.
J'hésite un peu, nous écrit Eugène, parce que je pousse beaucoup mon fils au piano. Il réussit à faire quelque chose d'extraordinaire, mais il faut qu'on le pousse. Est-ce que je dois continuer à le pousser comme ça, nous demande-t-il. Qu'en pensez-vous, Mathilde Monteau?
Oui, alors je crois qu'il y a effectivement des phases où les enfants, il faut les encourager. Et quand on n'a pas cette chance de faire l'orchestre, enfin de pratiquer l'instrument, son instrument dans le sein de l'école et donc de pratiquer avec ses pairs, effectivement, c'est probablement aux adultes d'encourager, mais ça ne veut pas dire d'obliger. Ça veut dire encourager et obliger, ce sont pour moi vraiment deux choses vraiment différentes. C'est pas tu vas faire ton instrument quoi qu'il arrive. C'est plutôt rentrer dans un rythme, dans une habitude de travail, et puis et probablement le solliciter. Est-ce que tu peux me jouer? Tu peux me faire un petit concert? Est-ce que tiens, tu enregistrerais ça pour un tel? C'est plus le solliciter sur des petits projets artistiques qu'il peut rencontrer, même seul, même individuellement, que l'obliger à jouer. Je crois que la notion de plaisir, elle a été évoquée plusieurs fois pendant l'émission. Et je crois que elle est cruciale, elle est primordiale. Et au même titre que le solfège, on ne peut pas imposer, même en commençant par la pratique instrumentale, je ne crois pas qu'on puisse imposer à des élèves à un moment, il faut que tu saches absolument lire une partition. Parce que il y en a certains pour lesquels ce sera, il y aura un côté dramatique de passer par là. Il faut aussi faire avec les enfants et les personnes qui sont là. Et qui, pour certaines, ont envie d'improviser toute leur vie sans forcément passer par le solfège. Et ça, je crois que c'est aussi important à respecter dans la musique.
L'enregistrer pour envoyer à ses proches, c'est ce que vous suggériez à l'instant. C'est vrai que c'est une très bonne idée, hein, enregistrer avec son téléphone l'enfant qui joue et l'envoyer à ses cousins, que sais-je. C'est une manière de faire naître la fierté. Et ça n'est pas rien, Mathilde Monteau.
Ben oui, la fierté, c'est indispensable, je pense, aussi pour ce genre de projet, pour ce genre d'apprentissage, tout simplement. Être fier de ce que l'on fait, et c'est des petits pas, c'est des pierres posées sur son chemin pour l'avenir. Ça veut dire gagner en confiance, en fait. C'est gagner en confiance en soi tout au long de sa vie, au travers de petites choses que l'on fait. Et la musique en fait réellement partie, je crois.
Le message d'Amandine va vous faire plaisir, Marc Caillard. Ma fille est tombée amoureuse de l'accordéon en cours d'éveil musical, nous écrit-elle. Elle veut en faire absolument. Pour nous, la pilule a été dure à avaler à cause de l'image ringarde de cet instrument. À force de persuasion, nous avons accepté. Et depuis, on écoute beaucoup d'accordéons à la maison. Et elle est parvenue à nous faire dépasser nos préjugés. Très belle histoire, n'est-ce pas?
Très belle histoire. Et d'ailleurs, j'en rêve, puisque j'aurais aimé vraiment faire de l'accordéon. Avoir un instrument harmonique avec un clavier qu'on emmène partout et on peut faire chanter tout le monde. Moi, j'étais flûtiste, vous voyez, donc c'était mélodique, donc beaucoup plus limité. Alors, j'avais besoin des autres, évidemment, pour faire de la musique. Mais je reviens à cette question de forcer... c'est une question de pédagogie générale. Accompagner les enfants, c'est en même temps être le gardien d'une certaine rigueur aussi, de l'exigence aussi dans la vie, d'aller au bout, de pas quitter la table quand on a envie, de vous voyez, donc j'ai envie de dire, et pourtant Dieu sait, je suis un enfant de 68, mais l'éducation, c'est aussi accompagner à grandir. Donc c'est présenter évidemment toute une palette. L'accès de tous à la culture, ça veut dire présenter, rencontre, emmener, partager. Puis après, c'est accompagner t'as voulu, t'as dit oui pour faire du piano, deux semaines après, tu abandonnes pas. Tu vois, c'est le contrat aussi. On apprend aussi le contrat, on apprend le respect de... On n'est pas justement des consommateurs, si je parle d'idéologie. Mais je voudrais juste une petite... très rapidement. C'est ce qui fait en France et Musique aussi qu'on a développé la formation des professionnels de l'enfance. Parce que on ne peut transmettre que ce qu'on vit soi-même. Un enfant ressent tout de suite... Si on lui fait faire une activité pour d'autres raisons, qu'elle soit un peu sadique parce qu'on veut dresser l'enfant, ou qu'elle soit autre, mais il va ressentir profondément le rapport que les adultes, c'est ça la culture, ont avec la musique ou n'importe quoi d'autre.
C'est ce qu'il y a de ville.
Moi, je trouve quand même qu'en tant que parent, on a souvent envie que notre enfant soit le meilleur ou soit excellent dans une discipline. Et je pense que, justement, dans cet accompagnement des enfants dont on parle, il faut aussi accepter, se réjouir des choses simples, d'accepter que notre enfant ne va pas devenir un virtuose, un grand pianiste qui va le faire le tour de la planète dans les plus grandes salles. Voilà. Je trouve qu'il y a un vrai travail aussi à mener en termes de mentalité par rapport à la pratique amateur notamment. C'est très bien d'être amateur. Je veux dire, il ne faut pas commencer un instrument ou pousser son enfant à faire un instrument. S'il a envie de le développer plus tard et de devenir professionnel, c'est génial. Mais s'il a envie de continuer à pratiquer pour son simple plaisir, c'est très bien aussi.
Et s'il veut écouter de la musique pour le plaisir, c'est très bien aussi. C'était Jungle sur France Inter. Et nous terminons avec notre question rituelle de l'été comme jamais. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, Mathilde Montaud, à Arles.
Alors, un sujet sur lequel j'ai changé d'avis, j'ai envie quand même de rester dans le sujet. Je crois que les enfants n'ont pas toujours besoin qu'on soit à côté d'eux. Ils le font aussi, ils s'entraident entre eux. Mmh. Et là-dessus, j'ai changé d'avis.
Vous pensez, voilà.
On avait vraiment besoin d'être toujours avec eux et je crois qu'en fait, les accompagner, c'est aussi leur faire confiance et leur permettre de s'entraider entre eux avec l'exigence que nous, on peut mettre derrière.
Leur lâcher la grappe, donc. Marc Caillard, sur quel sujet avez-vous changé d'avis ?
Je vais rester sur le même sujet et je vais vous faire peur aussi un petit peu. J'ai changé d'avis dans l'illusion que j'avais depuis 50 ans qu'à travers l'éveil du tout petit, l'accompagnement pédagogique, etc., on allait changer le monde. Et j'appellerai maintenant les parents, les éducateurs et les artistes à rejoindre d'une certaine manière les activistes du climat et à aller vers une révolution culturelle, c'est-à-dire à mettre en acte le vrai projet qu'ils ont s'ils prétendent vouloir éveiller leurs enfants à la culture, qu'ils la mettent au premier plan de nos sociétés et peut-être que ça sauvera le monde.
Saskia De Ville, même question.
Ça tombe très bien ce que Marc vient de dire, parce que moi, j'ai changé d'avis récemment sur l'implication du secteur culturel en termes d'écologie. Ah. Je me suis beaucoup intéressée à la question cette année sur France Musique. Et c'est vrai qu'au départ, en démarrant en septembre, je pensais que voilà, j'avais pas vraiment connaissance de tout ce qu'ils faisaient. Et j'ai été épatée et très agréablement surprise de toutes les associations, les initiatives qui existent déjà, parfois déjà depuis de nombreuses années. Donc ça m'a plu plutôt réjouie pour la suite.
Les instrus sont très vivement recommandés. Instrus avec un Z, podcast France Musique de Saskia Deville. Des épisodes de 10 minutes, c'est gratuit, c'est très malin et c'est drôle. Avec Florence Foresti dans le rôle d'une trompette. Vizorek qui joue les tambours et Jean-Pascal Zadi une clarinette, c'est délicieux. On vous retrouve sur France Musique tous les jours entre midi et 13h, Saskia Deville. Également sur Arte vendredi soir pour les Noces de Figaro. Vous retrouvez sur notre site, à la page de l'été comme jamais, des liens et des infos vers les associations dont nous avons parlé, Orchestre à l'école et Enfance et Musique. Merci beaucoup à tous les trois.
Mais merci à vous.
Bonne journée à vous.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Charles Pépin est annoncé juste après le journal. Bonjour Charles.
Bonjour.
Sous le soleil de Platon, quel programme aujourd'hui?
Exactement. Aujourd'hui nous recevons le philosophe Raphaël Menon. Il est d'abord chanteur. Il
Raphaël, oui, je crois qu'il est chanteur.
Mais il est aussi réalisateur et on va se demander si... parce qu'il parle beaucoup du voyage dans ses chansons, il est revenu, il repart. On va se demander si la vie n'est pas qu'une grande invitation au voyage et si d'ailleurs la créativité ou l'admiration ne relèvent pas aussi d'une logique du voyage.
Ce sera dans un instant de la philo sur la plage. Merci beaucoup Charles Pépin.